Les jeepneys du pauvre étaient bondés. Ils roulaient tout phare éteint ou grillés, leurs passagers serrés sur des bancs comme à l'église. Peut-être cette association d'idées lui vint-elle parce que les véhicules étaient ornés de slogans religieux. Dieu est bon, proclamait l'un d'entre eux. Dieu veille sur toi et ça se voit, disait un autre. À peine arrivé à Manille, Juan Diego mettait le doigt sur un sujet sensible, à savoir que les conquistadors et l'église catholique l'avaient précédé sur les lieux, et y avaient laissé leur marque. Son chauffeur s'appelait Bienvenido, et les jeepneys, qui constituaient le moyen de transport le plus économique de tous, étaient recouverts de réclames pour le bon Dieu. « C'est un problème qui concerne les chiens, » répondit le jeune chauffeur. « Les chiens, quels chiens ? Les chiens du Shangri-La, les chiens renifleurs de bombes. L'hôtel a été victime d'un attentat ? Pas que je sache, il y a des chiens renifleurs de bombes dans tous les hôtels. On dit que ceux du Shangri-La reniflent tout et n'importe quoi, sans même savoir ce qu'ils cherchent. Si ce n'est que ça. » Notre homme aimait les chiens et prenait toujours leur parti. Peut-être que ceux du Shangri-La adhéraient au principe de précaution, voilà tout. On raconte qu'ils ne sont pas dressés. Mais Juan Diego ne parvenait pas à garder le fil de cette conversation absurde. Manille lui rappelait le Mexique, à son grand étonnement, et voilà qu'on se mettait à parler de chiens. Aux enfants perdus, les chiens leur avaient manqué à lui et à Lupe. Quand une portée de chiots naissait sur le basurero, ils essayaient de s'en occuper. Quand un chiot mourait, ils tâchaient de le trouver avant les vautours. S'ils avaient aidé Rivera à brûler les cadavres de chiens, c'était par amour pour eux. La nuit, quand ils partaient à la recherche de leur mère Calle Zaragoza, ils évitaient de penser aux chiens des toits, car ils en avaient peur. C'étaient des corneaux pour la plupart, comme l'avait dit le frère Pépé. Mais il avait ajouté que seuls quelques-uns étaient retournés à l'état sauvage, alors qu'en fait, c'était le cas pour la majorité d'entre eux. Et si le jésuite ignorait comment ils étaient arrivés sur les toits, le docteur Gomez le savait fort bien. Nombre de ses patients avaient en effet été mordus par les chiens des toits. Elle était spécialiste nez-gorge-oreille, et un chien vous saute à la gorge d'emblée. Il vous attaque au visage. Des années auparavant, au dernier étage des appartements situés au sud du Zocalo, les gens laissaient leurs chiens courir sur les toits. Mais ces derniers s'étaient sauvés, ou bien les chiens sauvages, comment étaient-ils arrivés là, mystère, leur avaient fait peur. Souvent, les immeubles étaient si proches que les chiens pouvaient sauter de l'un à l'autre. On cessa bientôt de laisser les animaux de compagnie courir sur les toits, et il n'y vécut plus que quelques chiens sauvages. La nuit, Calle Zaragoza, les phares se reflétaient dans les yeux des chiens des toits. Pas étonnant que Lupe les ait pris pour des fantômes. Ils couraient au ras du vide, comme pour poursuivre les passants au-dessous d'eux. Quand on ne parlait pas, quand on n'avait pas d'écouteurs sur les oreilles, on les entendait haleter dans leur course. Parfois, lorsqu'ils sautaient d'un toit à l'autre, ils tombaient. Ils se tuaient sur le coup, sauf si leur chute était amortie par un passant. S'ils étaient blessés, ils avaient tendance à mordre celui sur lequel ils étaient tombés. « Vous, vous aimez les chiens, non ?»« Si, si, j'aime les chiens, » convint Juan Diego. Mais il était distrait par le souvenir de ces chiens des toits et se demandait si certains étaient des fantômes. Ces chiens ne sont pas les seuls fantômes en ville. Oaxaca est plein de fantômes, disait Lupe à sa manière omnisciente. J'en ai jamais vu, répondait Juan Diego. Tu en verras, concluait-elle sans autre précision. À présent, à Manille, voilà qu'il était de nouveau distrait par un jeepney en surcharge et doté de slogans religieux. Manifestement, Dieu veille sur toi et ça se voit faisait recette. Un autocollant d'un tout autre genre sur la vitre arrière attira son attention. « Ne fermez pas les yeux sur le tourisme pédophile, dénoncez-le. »« Et comment ?» pensait Juan Diego. « Il faut les coller au trou, ces enfoirés. » Mais ces enfants recrutés pour avoir des rapports sexuels avec les touristes, si Dieu veillait sur eux, ça ne se voyait guère. « Je suis curieux de savoir ce que vous penserez des chiens renifleurs, » dit Bienvenido. Mais quand il regarda dans le rétroviseur, son client s'était endormi. Ou bien il était mort. Sauf que ses lèvres remuaient. Il se dit que ce romancier pas très célèbre était en train de composer un dialogue dans son sommeil. On aurait cru qu'il parlait tout seul, comme le font les écrivains, supposa-t-il. Le jeune Philippin ne pouvait pas savoir que son passager se remémorait une discussion, ni deviner où les rêves de celui-ci allaient le transporter ensuite. Chapitre 12. Calle Saragossa. Écoutez-moi bien, monsieur le missionnaire. Ces deux-là, il ne faut pas les séparer, dit Vargas. Le cirque les habillera, il paiera leurs médicaments si besoin, ils auront droit à 3 repas par jour, un lit pour dormir et en prime, une famille qui s'occupera d'eux. Quelle famille? C'est un cirque, ils dorment sous la tente. La Maravilla, c'est une famille, Eduardo, dit frère Pépé, qui ajouta avec moins de conviction, les enfants de cirque ne manquent de rien. Comme celui de l'orphelinat, le nom du petit cirque de Huachaca avait été critiqué. La majuscule renvoyait au fait que la merveille était une vraie personne, une artiste. Mais le numéro qu'elle exécutait s'écrivait en minuscule. Du reste, certains considéraient que le cirque usurpait son nom. Les autres attractions étaient tout ce qu'il y avait d'ordinaire, y compris les numéros d'animaux, sans compter les bruits qui couraient. Ce dont on parlait en ville, c'était de la merveille, justement, à savoir une jeune fille. Il y en avait eu beaucoup dans le rôle. Une acrobatie à couper le souffle qui frôlait souvent le défi à la mort. Plusieurs d'entre elles s'étaient tuées, et celles qui survivaient ne demeuraient pas à merveille très longtemps. Elles se succédaient au contraire à une cadence rapide, probablement en raison du stress. Mais elles risquaient leur vie lorsqu'elles devenaient femmes, et c'était peut-être leurs hormones qui les trahissaient. Fallait-il voir quelque chose de merveilleux dans le fait que ces filles exécutaient une acrobatie susceptible de leur coûter la vie au moment même où elles avaient leurs premières règles et où elles voyaient leurs seins s'arrondir? Cet avènement de leur féminité représentait-il le vrai danger, la fameuse merveille? Parmi les gosses de la décharge, certains des plus grands s'étaient glissés en douce au cirque. Un cartade que Rivera n'aurait jamais toléré chez ses protégés. Et c'était eux qui avait parlé de la maravilla à Juan Diego et Lupe. À cette époque, quand le cirque était en ville, il s'installait dans la calle Cinco Señores, c'est-à-dire plus près du Zócalo et du centre-ville que de Guerrero. Qu'est-ce qui attirait les foules dans ce spectacle? Était-ce l'éventualité de voir mourir une jeune innocente? Pourtant, Pépé n'avait pas tort de considérer la maravilla et les cirques en général comme des familles. Cela dit, il en est de bonnes. Il en est de mauvaise. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse d'un infirme? Demanda Esperanza. Je vous en prie, pas devant lui, s'écria Seigneur Eduardo. Il n'y a pas de mal, dit Juan Diego. C'est vrai que je suis infirme. La maravilla t'engagera parce que tu es indispensable, Juan Diego, reprit le médecin. Il faut bien un interprète pour louper, Esperanza. À quoi bon engager une diseuse de bonne aventure que personne ne comprend? « Je suis pas diseuse de bonne aventure, » objecta Lupe, ce que Juan Diego ne traduisit pas. « Soledad est la femme qu'il vous faut, » annonça Vargas à Edward Bancho. « Comment ça, il ne me faut pas de femme à moi ?» s'écria le missionnaire qui crut que Vargas avait mal compris ce qu'impliquait un vœu d'abstinence. « Pas une femme pour vous, modèle de chasteté que vous êtes. Une femme à qui parler au nom des enfants. Or, c'est Soledad qui s'occupe des enfants du cirque. Elle est mariée au dompteur. » Pas très rassurant comme nom pour une femme de dompteur, Soledad, solitude, voilà qui n'augure rien de bon, il la prédispose au veuvage. Pour l'amour du ciel, Pépé, c'est son prénom, voilà tout. Vous êtes un antéchrist, vous le savez? Dit Edouard en montrant Vargas du doigt. Ces gosses ont la possibilité de vivre à l'orphelinat, et ils recevront l'éducation des jésuites, et voilà que vous voulez leur faire courir des risques. Elle vous fait si peur, cette éducation, docteur Vargas? Votre athéisme est si militant que vous redoutez qu'on en fasse des croyants? Ces enfants courent des risques à Huachaca. Je me fiche pas mal de ce qu'ils croient ou non. C'est un antéchrist, dit Edouard, cette fois à frère Pépé. Il y a des chiens au cirque? Demanda Lupe, question que son frère traduisit. Oui, il y en a, des chiens savants. Soledad forme les jeunes acrobates, y compris les voltigeuses, mais la troupe des chiens a sa propre tente. Tu aimes les chiens, Lupe? Demanda Vargas à la petite. Celle-ci haussa les épaules. Juan Diego voyait bien que l'idée de la maravilla l'emballait autant que lui. C'était Vargas qui ne lui plaisait pas. « Promets-moi quelque chose, » dit-elle à Juan Diego, dont elle avait pris la main. « Bien sûr, quoi ? Si je meurs, je veux que tu me brûles sur la décharge, comme les chiens. Tu le feras avec Rivera et personne d'autre. »